peu spirituel aujourd'hui, il sera question de Saint Paul. C'est que c'est aujourd'hui une fête un peu curieuse aux yeux de certaines personnes, moi le premier peut-être. C'est la fête de la dédicace des basiliques Saint-Pierre et Saint-Paul. Vous avez souvent vu des photos de la basilique Saint-Pierre, qui est une basilique absolument fantastique, immense, et Saint-Paul est encore plus grand. C'est immense, c'est un peu, on appelle ça Saint-Paul hors les murs. C'est un peu à l'extérieur des grands courants de Rome. Mais il y a beaucoup d'activités quand même autour de Saint-Paul aujourd'hui, la ville s'étend. Et on fête donc ces deux sanctuaires prestigieux. La première, Saint-Pierre de Rome au Vatican, a été construite à l'initiative de Constantin, l'empereur Constantin, qui s'était converti vers 330. Et la construction de la seconde, celle de Saint-Paul, a été décidée par l'empereur Valentinien II en 386. Comme vous voyez, ce sont des basiliques extrêmement anciennes. Dans leurs origines, et elles s'élèvent l'une et l'autre à l'endroit qui semble bien être celui de leur supplice à l'un et à l'autre. Pierre ayant été crucifié la tête en bas, ne voulant pas être crucifié comme son maître, la tête en haut, mais ne méritant pas ça, il a préféré être crucifié autrement. Et puis, Saint-Paul a eu la tête tranchée. En principe, ils ont été inhumés à l'endroit même de leur supplice. Et on sait d'ailleurs, par les fouilles d'il y a une cinquantaine d'années, que Saint-Pierre est bien enseveli sous l'autel majeur de Saint-Pierre au Vatican. On sait que Saint-Pierre et Saint-Paul sont réunis par la liturgie, par les célébrations officielle de l'Église, dans une même fête solennelle, le 29 juin. Alors, on célèbre aussi ces deux grandes églises. Vous allez dire, pourquoi célébrer des églises? Vous allez voir. C'est plein de bon sens quand on y pense et quand on lit ce qu'en disent les spécialistes qui ont réfléchi sur cette question. Évidemment que la liturgie nous invite surtout à porter nos regards sur ces deux saints. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va porter notre regard sur Saint Paul. Ce sont deux grandes figures du christianisme. C'est évident, hein, que furent Pierre et Paul. Tout le monde, à peu près, c'est ça, j'espère bien. Et quel rapport peut-on trouver entre ces lieux, ces basiliques, qui rassemblent les fidèles, qui sont des églises, puis les textes qu'on nous propose aujourd'hui à la liturgie? On peut s'arrêter deux secondes à ça, c'est assez intéressant. Il y a une première lecture qu'on fait, c'est la fin du livre des Actes des Apôtres, cette première histoire de l'Église qui est dans nos Nouveaux Testaments, juste après les Évangiles, comme vous savez. Hein. Et selon la perspective de l'auteur de ce texte, qui semble être Saint-Luc, l'arrivée de Paul à Rome à la fin de ses jours, parce qu'il est condamné, signifie que la bonne nouvelle du salut, cette bonne nouvelle qui nous apprend qu'on a un Père, on va célébrer ça à compter du nouvel an chrétien qui commence avec le premier dimanche de l'Avent, ça se fait à la fin de décembre, à la fin de novembre, nous approchons là, ça va être notre nouvel an à nous les chrétiens. Eh bien, nous allons célébrer la bonté du Père, sa paternité, sa grandeur. Et c'est cette bonne nouvelle que Jésus est venu nous apprendre. Hein? Et c'est ce que Saint Paul a fait toute sa vie. Elle a été annoncée, en principe, au monde entier connu de l'époque. Hein? Et en fait, cela veut dire qu'il faut qu'elle le soit. C'est pour ça qu'on fait cette lecture-là aujourd'hui. Il faut toujours que nous tous, y compris les laïcs, nous soyons des propagateurs de cette grande nouvelle. On vient d'entendre une émission sublime de l'abbé Gérard Marié, qui nous a fait vraiment comprendre tout l'amour que Dieu nous porte. En l'espace de quelques minutes, il a su faire une synthèse extraordinaire. Quelle belle émission qu'on a eue tout à l'heure, hein? Ça vient de se terminer. Elle repassera ce soir à 11h30, ne manquez pas ça, si vous n'êtes pas couché. Or, l'Église matérielle, la construction de pierres, de marbre et de tout ce que vous voudrez, qui fait Saint-Pierre du Vatican puis Saint-Paul hors les murs, ça symbolise quoi? Le rassemblement de tous les hommes. Et l'anniversaire donc d'une dédicace, c'est-à-dire d'une consécration, si vous voulez, de ces temples, surtout celle de la basilique consacrée à l'apôtre Saint-Paul, qui fut le plus grand évangélisateur de tous les temps. Hein? C'est fantastique, sa vie. Je vais vous parler de ça tout à l'heure. Ça nous rappelle donc notre devoir, comme je vous dis, de missionnaire. Nous devons tous être des missionnaires. Vous savez, on admire les Mormons. On a entendu ce matin des chants des Mormons à Radio Ville-Marie. On pense aux témoins de Jéhovah. Puis il y a d'autres religions mineures du christianisme, et on admire qu'ils ont comme ça des missionnaires laïcs et qui se vont de porte en porte et qui ne se gênent pas. Et nous. Il faut surtout être des missionnaires par l'exemple, évidemment, par ce que nous sommes. Et nous ne devrions jamais entrer dans une église sans penser d'ailleurs à cela, sans que le zèle qui dévorait Saint Paul ou qui dévorait les saints auxquels sont dédiées nos églises, ben ce zèle devienne le nôtre. Le texte évangélique, aujourd'hui, à la messe, présente l'épisode dit de la marche sur les eaux. Qui ne connaît pas ça, hein? Saint-Pierre qui marche sur l'eau. Les disciples sont dans la barque, là, puis c'est la tempête, et puis ils voient Jésus qui vient à eux, et Jésus marche sur la mer de Galilée. Le lac de Tibériade, c'est toujours le même lac. Hein? Pierre veut le rejoindre. Alors Jésus l'y invite et dit « Viens ». Mais évidemment que Saint-Pierre perd confiance à cause de la violence des vents, puis il commence à perdre pied, puis il s'enfonce dans l'eau. Jésus le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Ah, j'ai passé ma vie à douter. Faudrait que j'écoute bien cette parole et que je me la rentre dans le crâne et dans le cœur, hein? Pourquoi ai-je douté? Pourquoi est-ce que je doute toujours? Nos églises doivent également nous rappeler, me semble, la présence mystérieuse de celui qui a promis son assistance contre les forces du mal, c'est Jésus, et sans laquelle nous pouvons sombrer. Comme hier, si vous avez écouté, le maréchal Lyoté qui a sombré jusqu'à temps qu'un séminariste le sauve. Quand nous pénétrons dans ces lieux de rassemblement et de culte, pensons-nous assez à celui Jésus qui est plus fort que toutes nos peurs. C'est le pape Pie IX qui a voulu que les dédicaces des basiliques Saint-Pierre et Saint-Paul soient célébrées ensemble le 18 novembre. Pie IX a régné au siècle dernier, vers le milieu du siècle. Il a attendu le 10 décembre pour consacrer Saint-Paul, la basilique de Saint-Paul qui avait brûlé. Elle avait été reconstruite au siècle dernier. Il voulait être assisté par les cardinaux, les évêques, la foule des fidèles qui étaient venus à Rome pour la définition du dogme de l'Immaculée Conception qui a été proclamé, vous le savez, hein, le 8 décembre 1854. Or, je vous rappelle que cette basilique Saint-Paul, qui était superbe, a brûlé. C'était un incendie épouvantable qui a eu lieu le 15 juillet 1823. Cette basilique admirable du 4e siècle, oui, du 4e siècle, a brûlé. Alors, on a cru au 19e siècle, il y a 100 ans, un peu plus, on a cru nécessaire de la rebâtir plus belle qu'avant. Alors, toutes les marbres et la technique moderne de cette époque, en tous les cas, de cette nouvelle construction, ça peut pas nous consoler, paraît-il, de tout ce qu'on lit sur ce que c'était autrefois cette basilique. Mais elle est très belle, elle est immense, la basilique Saint-Paul hors les murs. Évidemment que la série des médaillons des papes, là, qu'on peut voir, ça rappelle toujours la continuité de l'Église. Mais c'est un peu banal. C'est pas beau comme les vieilles peintures. qui avait été commencé sous les instructions de Saint Léon le Grand, dont je vous ai parlé il y a quelques jours, qui a vécu il y a 1000 ans. La remise à neuf des vieilles mosaïques, ça compense pas. Une espèce d'affadissement. C'est une église très belle et en même temps décevante. Elle n'a pas la patine. Elle n'a pas tout ce que l'autre avait. Alors, comme Saint-Pierre, eh bien, Saint-Paul a été enterré probablement auprès du lieu de son supplice, comme je vous ai dit, dans un cimetière ouvert à tous. Alors qu'au Vatican, les plus anciennes sépultures ne sont peut-être que de la fin du 1er siècle, sur la voie de style, en est bien de plus ancienne, parce que Saint-Paul-Orlémur s'est construit sur la voie d'Ostie, O-S-T-I-E, qui mène à Ostie. Hein. Entre autres restes, on peut voir aujourd'hui, d'ailleurs, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, un columbarium en plein milieu de la voie d'Ostie. Et on sait qu'il y en a un autre tout près de ce qu'on appelle la confession de Saint-Paul, c'est-à-dire l'endroit où il a confessé sa foi, où il est mort, où il a été enterré, où l'on a construit cette église. Alors, l'actuelle basilique, elle a gardé le plan de l'ancienne qui lui confère une grande majesté. On peut encore voir sous l'autel, d'ailleurs, la plaque de marbre qui recouvre le tombeau de Saint-Paul. Elle porte ces simples mots. Paul, apôtre, martyr. Ça résume toute sa vie. Paul, apôtre, martyr. C'est d'une beauté extraordinaire que ces trois mots, quand on réfléchit. Cette tombe fut percée dès l'origine d'un trou rond, par lequel, comme à Saint-Pierre de Rome, on descendait un encensoir ou des linges, et par la suite, on lui a fait deux autres trous carrés. On admet depuis longtemps que la tombe de Saint-Paul a été à diverses reprises ouverte et même violée, c'est dommage. Donc, elle est située à une distance relativement grande de la ville de Rome, et plus encore du centre des affaires. Mais la basilique Saint-Paul a une histoire moins mouvementée que Saint-Pierre. L'ancienne basilique, là, qui a brûlé en 1823, avait été restaurée par Saint-Léon en 440-461, voyez-vous, Saint-Léon le Grand qui a vécu il y a bien longtemps. Et dès le temps de Grégoire II, disons au 8e siècle, le service y était assuré par des moines bénédictins. Oui, ce sont des bénédictins qui ont commencé à servir là au 8e siècle. Et croyez-le pas, ils y sont encore. J'en ai vu, il y a des moines bénédictins qui sont là et qui entretiennent la basilique de Saint-Paul hors les murs. Ils y sont restés. C'est la seule survivance de ce qu'on appelle les monastères basilicaux du Moyen-Âge, ces grands monastères où les moines entretenaient des basiliques. Nous allons entendre maintenant les moines de Ligugis qui habitent le plus vieux monastère de France, Ligugis, près de Poitiers, fondé par Saint-Hilaire, et où il y a des bénédictins depuis la fondation des bénédictins quelques siècles plus tard. Ils sont encore là. En ce siècle, il y a encore des moines à Ligugis, tout près de Poitiers. Je vous le répète, réjouissez-vous, dit Saint-Paul, que votre modération soit connue de tous les hommes, car le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos demandes à Dieu par la prière. Est-ce que vous connaissez bien, je l'espère, le récit des Actes des Apôtres dans la Bible? C'est, comme je vous dis souvent, c'est la première histoire de l'Église. On trouve ça après les Évangiles, dans notre Bible. Il nous raconte la naissance et la vie des premières communautés de chrétiens. Et c'est fascinant, parce que tout n'est pas facile pour eux, comme c'est pas facile pour nous aujourd'hui. Mais à cette époque, c'était ceux qui sont opposés à Jésus, bon, ça continue, et qui s'opposent aussi aux communautés chrétiennes, et c'est la même chose encore. Un jour, un diacre nommé Étienne ose annoncer que Jésus est le Messie à ceux qui veulent rester fidèles à la loi juive, à la loi de Moïse. Alors, il est tué. Cela se passe en dehors des murs de Jérusalem. Un certain Saul de Tarse, entre dans le récit des Actes des Apôtres. Il assiste à la scène. Saul, c'est un persécuteur farouche des chrétiens, mais voilà que sur le chemin de Damas, en Syrie, où il s'en va persécuter des chrétiens qui se sont établis là, ou qui ont été convertis, il est appelé par le Christ dans une vision fantastique et sa vie change. Souvenez, il tombe en bas de son cheval. Il devient même aveugle pendant quelques jours. Il ne voit plus. Et son nom change, il s'appelle Paul maintenant. À la fin du récit des Actes des Apôtres, Paul est à Rome, et c'est lui qui est persécuté pour l'amour du Christ. Saint Paul voyage beaucoup. Quelle distance à parcourir de la mer à la montagne, montagne sauvage souvent, des étendues inhabitées, à l'entrée des grandes villes. Il voyage, il est dévoré par cette vision qu'il a eue de Jésus et le message qu'il a compris. Paul est là, inconnu parmi d'autres voyageurs, quand il se promène comme ça, comme les missionnaires d'aujourd'hui, quand on y pense. Il traverse un fleuve, une frontière naturelle entre deux régions. Il va de pays en pays. Et c'est la grande aventure qu'a porté cette bonne nouvelle de l'Évangile que je vous ai dit, que nous avons un Père qui nous aime, qui est Dieu, et que nous n'avons qu'à répondre à son amour et à nous aimer les uns les autres et à aimer tout le monde et à pardonner tout ce qui nous est fait. C'est un message d'amour bouleversant. C'est la grande aventure, donc, qui a porté la bonne nouvelle de Jésus-Christ partout jusqu'à nous aujourd'hui. Paul est là, au tout début, Saint Paul. On peut commencer au moment où Paul est en Europe, en Grèce. Il a fondé une communauté de chrétiens à Thessalonique. Il arrive à Corinthe. Il est faible. Il est craintif, mais il a le cœur rempli d'un amour pour tous, et en particulier pour les plus petits, les plus pauvres d'entre les hommes. Et toute sa vie, il continue toujours sa route, hein, Saint Paul. Il lâche pas, lui. C'est lui qui se sent petit et pauvre devant l'immense tâche d'annoncer partout cette bonne nouvelle. Car son amour est devenu si grand qu'il est universel. Il veut convertir tout le monde connu de son temps. Il a le souci de toutes les églises qu'il fonde, les communautés chrétiennes qu'il fonde. On appelle ça des églises, l'église de Corinthe, l'église de Thessalonique, ce sont des villes. Vous aimeriez savoir ce qui s'est passé entre les débuts puis la fin de la vie de Saint Paul? Eh bien, Paul reçoit de bonnes nouvelles de ses frères chrétiens, mais il rencontre aussi des épreuves. Hein? Et parmi celles-ci, il y a des difficultés de gagner sa vie, de parler de Jésus, le Messie, à ses frères juifs. C'est pas facile, ça. Les juifs s'y opposent. Parce que, il faut bien les comprendre, ils ont reçu un message d'un Dieu qui, dont le nom ne doit guère être prononcé, de crainte d'idolâtrie. Et là, tout à coup, Dieu se fait homme. Ah, puis il y a aussi d'autres épreuves. Les difficultés de gagner sa vie, car Saint Paul, c'est un homme qui gagne sa vie. Mais il parle de Jésus, le Messie, à ses frères juifs. C'est une difficulté d'aider les chrétiens à progresser dans l'amour du Christ. Alors, il y a des persécutions de la part des juifs qui sont attachés à leur révélation, à leur loi. Paul a besoin de courage, mais surtout de foi. C'est un juif courageux, devenu chrétien. Il est encouragé par Priscille et Aquilas, des juifs convertis. Silas et Timothée aussi, les grands amis. Il écrit aux communautés qu'il a quittées, puis à travers ses joies et ses peines, il sait qu'il est appelé à aller plus loin. C'est aux païens qu'il va s'adresser désormais, aux païens. Nous sommes entourés de païens, nous sommes nous-mêmes parfois touchés par le paganisme dans nos péchés. Ceux-ci, les païens, n'ont d'autre Dieu que des idoles, semble-t-il. Et des affrontements, bien, rendent à Saint Paul la tâche impossible à Éphèse. Je vais vous montrer ça. et des nouvelles mauvaises là arrivent de Corinthe. Parce que la communauté chrétienne de Corinthe fonctionne plus. Ça lui fait beaucoup de peine, parce que ce sont ses fils, ses filles, hein, qui l'a converti. Alors Paul écrit alors aux Corinthiens comme à nous aujourd'hui. Il écrit, écoutez bien ce qu'il dit, l'apôtre n'est rien. C'est Dieu qui agit à travers lui. Comme il a raison. Le chrétien est libre, libre d'aimer jusqu'à sacrifier sa vie, sa liberté pour l'amour de son frère et de l'Évangile. Alors que chacun s'interroge sur sa foi, avant de boire à la coupe du Seigneur, avant de partager le repas du Seigneur, quand on voit aux funérailles et puis au mariage, tout ce monde qui communie et qui sont pas catholiques, qui ne pratiquent plus du tout, qui ne croient plus. Qu'est-ce qui se passe? Il dit bien que chacun s'interroge sur sa foi, avant de boire à la coupe du Seigneur, avant de partager le repas du Seigneur, c'est la messe. Ah! Il faudrait vraiment que l'on refasse l'éducation de nos gens dans nos églises. Nous avons tous rêvé, au fond, un jour de découvrir le monde, quand on est jeune, surtout 16, 17, 18 ans. Hein? Et pour Saint Paul, ça n'a pas été un rêve. Lui, il est parti à la découverte du monde. Et depuis que Saint Paul a été touché par l'amour de Jésus, il s'en va vers les villes de montagne et les grands ports de mer pour annoncer partout la bonne nouvelle. Il annonce que Jésus aime tous les hommes. Nous avons un Père. Quand il a semé le germe de l'Évangile quelque part, Paul prie Dieu. Il lui demande de venir en aide à ceux qu'il cherche. Puis il continue sa route et en chemin, il se fait des amis. Sa vie est faite de retrouvailles et de séparations. Parfois, il envoie des disciples comme Silas et Timothée qui vont encourager. Les chrétiens de Thessalonique. Parfois, c'est Paul qui part vers les nouvelles communautés. Alors, ce sont des frères. Dans l'annonce de l'Évangile, ils vivent les mêmes joies, les mêmes inquiétudes. Ils sont unis dans une même confiance dans le Christ. Et c'est aux païens que le Christ a envoyé Paul pour proclamer l'Évangile. Alors, cette mission l'amène à Corinthe, un des grands ports de l'Empire romain. Corinthe, bien, c'est la capitale de la Grèce. Il y a des marchands puis des savants qui sont venus de partout. Or, dans cette ville de commerce de plaisir et d'argent, les hommes recherchent quoi? Surtout le bonheur et le savoir. Comme aujourd'hui, on cherche le bonheur et on veut savoir. Alors, on regarde la télévision, on lit tous les journaux, toutes les revues. On veut savoir, on veut être au courant de tout. Dans son temps, on adore le dieu de la mer. Aujourd'hui, on adore le dieu de l'argent. Et comme dans toute la Grèce, on cherche surtout à trouver le bonheur, à se sauver par l'intelligence, une intelligence qui veut comprendre des choses. Et il y a une certaine noblesse dans tout ça, comme aujourd'hui d'ailleurs. C'est plein de livres intéressants où il n'est pas question de Dieu aujourd'hui. Au Salon du Livre, on va en voir une quantité énorme. Mais Saint Paul est ridiculisé, il a été ridiculisé, bafoué à Athènes par ces gens très intelligents. Et c'est faible, craintif et tout tremblant qu'il parcourt, lui, aujourd'hui, les rues de Corinthe, il cherche à qui parler. C'est un problème, être missionnaire, hein? On nous parle souvent des raisins de Corinthe, c'est célèbre ça, puis le vin de Corinthe qui est aussi célèbre. Alors on boit beaucoup à Corinthe, on s'amuse bien, tout cela coûte très cher. Des voyageurs sont attirés par la vie et par les plaisirs de cette ville. Les habitants, des étrangers, des marins, des capitaines, ils perdent tout leur argent. Ils doivent avoir des sortes de casinos, j'imagine. Et peut-être aussi que tout ce qui fait la vraie richesse de la vie, ils la perdent aussi. Mais Paul veut leur porter l'amour, lui, l'amour de Jésus-Christ qui ne disparaît jamais. Et comme il l'écrira aux Romains, c'est à peine si quelqu'un voudrait mourir pour un homme juste. Peut-être accepterait-on de mourir pour un homme de bien. Mais le Christ, lui, est mort par amour pour nous, alors que nous étions pécheurs. Alors il se pose des questions par où commencer, chercher du travail et un logement. Et c'est comme ça qu'il s'installe, il trouve un logement auprès d'un juif nommé Aquilas, originaire d'Asie mineure, et qu'il a rencontré à Corinthe, et puis avec sa femme Priscille, la femme d'Aquilas, Il s'installe, et c'est là que ça va commencer à Corinthe. Saint Paul, je vous ai dit, est à Corinthe, il s'installe. C'est pas facile, hein, pour un missionnaire. Pensez aux missionnaires d'aujourd'hui qui doivent s'installer souvent dans des régions complètement négatives. Alors donc, il rencontre, comme je vous ai dit, un juif nommé Aquilas, originaire d'Asie mineure, donc de Turquie. Et Aquilas vient d'être chassé de Rome avec sa femme Priscille, parce que l'empereur a expulsé les juifs de Rome. Mais ce sont des juifs chrétiens. Paul devient leur ami, et comme ils pratiquent le même métier que lui, ils sont tisserands, hein? Saint Paul était tisserand, il tissait des tentes. Alors Paul demeure avec eux. Il trouve ainsi du travail, puis un toit, et surtout des frères. Et c'est ici donc, comme je vous ai dit, que tout va commencer à Corinthe. Ça commence dans un bazar de tapis, si vous voulez. Ils font des tapis aussi. Et là, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de ce qu'on leur donne. Mais cependant, Saint Paul ne se sert pas de ce droit. Il préfère gagner sa vie, pour que personne ne le soupçonne de profiter de l'Évangile, de l'enseignement qu'il donne pour vivre. Il veut pas. Il veut que ce soit gratuit, et c'est comme ça qu'il est, Saint Paul. Il est entier. Il veut donner gratuitement ce qu'il a reçu gratuitement. Et il dit cette phrase qui nous étonne toujours, ça nous émeut toujours aussi. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Est-ce qu'on y pense? C'est un grand malheur. Ses amis Priscille et Aquilas ne sont pas les seuls juifs à Corinthe. Il y en a beaucoup qui ont été expulsés de Rome par l'empereur et qui se sont réfugiés comme ça à Corinthe. Et chaque sabbat, bien, Paul prend la parole à la synagogue, parce que la plupart de ces juifs sont demeurés juifs, n'est-ce pas? Au début, il se sent découragé car personne ne l'a écouté à Athènes, la ville pourtant la plus religieuse de toute la Grèce. Alors, il se montre prudent. Il ne parle pour commencer que des prophètes de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ancien Testament. Bien oui, il veut annoncer le mieux possible le message de Jésus dans la grande ville de Corinthe sans trop blesser les Juifs. Des gens venus de partout pourraient peut-être ramener chez eux une étincelle de vérité, hein, qui sait. Leur faire comprendre que le Messie est arrivé. Il est venu, il y a quelques années à peine. Étincelle, oui, c'est une étincelle. Une étincelle que l'on verrait peu à peu s'allumer dans d'autres ports, là, tout autour de la Méditerranée. Pourquoi pas, y rêve. Et après le travail, bien, Aquilas, Priscille et Paul se retrouvent souvent sur la terrasse pour parler de ce qui leur remplit le cœur. Les deux jeunes chrétiens juifs sont jeunes, ne cessent d'interroger Paul, de le questionner. Leur désir de mieux connaître le Christ, bien, ça redonne chaque soir à l'apôtre Saint Paul le courage, l'espérance. Et ça l'aide à être fidèle, lui aussi, envers et contre tout. Parce qu'il veut devenir un saint, quoi. Et un soir, des grands amis de Saint Paul, Silas et Timothée, reviennent de Thessalonique. Ça s'appelle aujourd'hui Salonique, hein, c'est un port de Grèce en Macédoine. Et leur appel retentit joyeusement dans la ruelle, il entend leur voix. La joie de retrouver ses deux compagnons dans l'annonce de l'Évangile. Ah, ça met dans le cœur de Saint Paul le courage d'un lion. Peut-il encore se retenir et parler de Dieu et des prophètes comme si le Christ n'existait pas? Se taire? Non, alors, il est pris de courage et Paul révèle aux Juifs de Corinthe tout ce qui s'est passé en Palestine. Oui, Jésus, Fils de Dieu, crucifié. Mais ses paroles déclenchent un grand tumulte et on lui laisse même pas le temps d'achever. Non, 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 Dieu ne peut pas être un homme comme nous, encore moins un condamné à mort. Non, c'est impossible. Alors, Saint Paul secoue ses vêtements et la poussière de ses souliers. Et chacun comprend que c'est un signe de rupture avec les siens. Désormais, Paul ira vers les païens. Ça fait longtemps que Paul n'a plus de nouvelles des chrétiens de Thessalonique qu'il avait amenés à la foi. Il sait que là aussi, la communauté a été secouée par des disputes plutôt assez graves. Et parmi toutes les nouvelles que Silas et Timothée ont rapportées, il y en a de très bonnes quand même. Mais saint Paul apprend aussi que beaucoup de chrétiens ont compris tout à fait de travers, c'est ce qu'il a dit au sujet de la mort et de la vie nouvelle après le retour de Jésus. Que de gens comprennent ça tort et à travers et font des sectes, des petites églises, ils se séparent. Ils ne comprennent pas toujours ce que vraiment tout ça veut dire depuis 2000 ans. Dommage. Et certains disent, au temps de saint Paul, que le retour du Christ est si proche. On entend ça encore aujourd'hui. Il y a toujours des gens pour nous dire que le retour du Christ est si proche, c'est bientôt, là, c'est bientôt. Alors certains disent que le retour du Christ est si proche qu'ils n'ont plus qu'à se tourner les pouces. Et puis la peine de travailler, quoi. La vie sur terre n'a plus d'importance, le Christ s'en vient. Alors ils ne travaillent plus, puis ils mangent le pain de leurs voisins. Ils sont un peu comme aujourd'hui, et chose étrange en Israël, ces Juifs ultra-orthodoxes, en Israël donc, qui attendent le Messie. Ils disent qu'il s'en vient, là. Puis ils vivent aux dépens de l'État d'Israël. Ils sont très nombreux, hein? Très, très nombreux. Ils sont rendus qu'ils sont 27% de la ville de Rome et de Jérusalem. Puis ils font pas grand-chose pour l'État d'Israël. Ils font pas de service militaire parce qu'ils étudient la Torah. Ils travaillent pas parce qu'ils étudient la Torah. Tout se ferme le jour du sabbat parce qu'il faut accomplir les lois. Et ça crée des problèmes immenses en Israël. Or, ces gens comme ça qui, au temps de saint Paul, sont chrétiens, qui ne travaillent plus, qui mangent le pain de leurs voisins, c'est pas drôle. Et pour finir, chacun s'occupe des affaires des autres, puis tout le monde devient mécontent. Alors, à ces nouvelles, saint Paul ne répond plus. Alors, il se dit, demain, nous irons acheter tout ce qu'il faut pour écrire et nous écrirons une lettre. Alors, après avoir longtemps médité sur son lit, sur sa couche, et prié le Seigneur avec confiance toute la nuit, bien saint Paul se met à dicter ce qui lui remplit le cœur. Et tandis que Silas, lui, prépare le parchemin, ça prend du parchemin, des peaux d'animaux séchés, là, des peaux d'agneaux, eh bien Timothée, lui, écrit de tout son cœur ce que saint Paul lui dicte. Voici ce qu'il écrit, Timothée, de la part de saint Paul. C'est saint Paul qui écrit aux Thessaloniciens. C'est très beau. Frère bien-aimé. Oui, frère bien-aimé. Comme une mère nourrit ses enfants, telle est notre tendresse pour vous. Nous aurions voulu revenir chez vous, mais pour le moment, c'est impossible. Quelle est notre joie et notre fierté? C'est vous. Ne vous laissez donc pas emporter par toutes sortes d'erreurs, comme le font ceux qui ne connaissent pas Dieu. Vous êtes tristes à cause de ceux qui sont morts, et moi aussi. Mais ne perdez pas courage, comme le font ceux qui n'ont pas d'espérance. Car Jésus est vivant. Réconfortez-vous donc les uns les autres. La volonté de Dieu, c'est que vous soyez des saints. Il est fidèle, celui qui vous appelle, c'est encore lui qui fera cela. N'éteignez pas l'esprit. Restez toujours joyeux. Priez sans cesse et en tout ce que vous faites, remerciez le Seigneur. Priez aussi pour nous. Saluez les frères, et que cette lettre soit lue à tous. Vous savez que cette lettre, c'est le premier écrit du Nouveau Testament. Ça date un peu avant l'année 50, au moins, peut-être plus tôt. Au printemps de la même année, on nomme un nouveau gouverneur pour la province de Corinthe. Il s'appelle Gallion, et les Juifs révoltés contre saint Paul profitent de cette occasion lui pour traîner l'apôtre Paul devant le tribunal de Gallion et le couvrir de toutes sortes d'accusations fausses. Ils n'ont aucun succès. Un terrible silence qui s'ensuit de la part de Gallion. Saint Paul plonge son regard dans les yeux du gouverneur romain et se prend d'amitié pour lui. Pour Gallion, c'est la dernière occasion d'entendre parler de Jésus. Sans qu'il y ait de jugement, le gouverneur fait évacuer les lieux. Et Sosthène, le chef de bande qui a livré Paul, s'en tire avec une volée de coups de bâton. Gallion les laisse faire. De toutes les villes que Paul a évangélisées, aucune ne lui a causé autant de soucis que Corinthe, et nulle part il n'est resté aussi longtemps, plus d'un an et demi. Et dès que la communauté chrétienne de Corinthe est organisée, Paul songe à un nouveau champ d'activité pour y semer le germe de l'Évangile. Alors il s'embarque donc avec Priscille et Aquilas pour Éphèse. là où l'on dit que Marie, mère de Jésus, serait morte à l'âge de 72 ans. Ainsi, les Corinthiens prennent conscience qu'ils font partie d'un ensemble de communautés chrétiennes, là, qui sont répandues à travers le monde. Et ils découvrent avec admiration combien saint Paul a le souci de toutes les églises. Corinthe était une ville où se côtoyaient nouveaux riches et vieilles misères. Et Éphèse, c'est une des sept merveilles du monde à ce temps-là. Et quand Paul arrive à l'intérieur du port d'Éphèse, à bord d'un petit canot, par un canal long de 2 kilomètres, personne ne peut soupçonner qui est ce vagabond. D'ailleurs, quand un missionnaire arrive, même encore aujourd'hui, dans des pays très lointains, qui peut soupçonner qui est ce vagabond, hein? Pourtant, sa foi va ébranler le culte des dieux et même de l'empereur. Le nom de quelqu'un est très important et on n'appelle pas n'importe qui n'importe comment. Au contraire, suivant qu'on connaît quelqu'un ou qu'on ne le connaît pas, suivant qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est par son nom, par son prénom que nous l'appelons. Or, Paul appelle le Christ simplement Jésus. Il le connaît. Souvent, on lui amène toutes sortes de malades pour qu'il les guérisse, et c'est au nom de Jésus que Paul les guérit. Et voyant avec quelle puissance Paul guérit les malades, certains veulent l'imiter. Alors, il y a les 7 fils du grand prêtre qui essaient aussi de se servir du nom de Jésus pour guérir les malades qu'on leur présente. Et qu'est-ce qui arrive? Eh bien, alors, on leur amène un fou furieux pour qu'il le délivre de sa folie, mais les 7 fils prononcent alors le nom de Jésus comme une formule magique, et aussitôt le malade se jette sur eux puis leur donne une bonne raclée. Tous les habitants d'Éphèse, juifs et grecs, ont compris. Ils sont remplis alors du respect sérieux, profond, pour le nom de Jésus. Et la crainte s'empare de tous. Et ils glorifient le Seigneur. Et beaucoup de croyants avouent qu'ils ont encore dans leur maison des livres païens, des livres de magie, comme on en a aujourd'hui dans certaines maisons, et beaucoup dans nos librairies. On voit ça un peu partout à Montréal. Je crois que c'est partout comme ça en Occident actuellement, des livres absolument d'ésotérisme insensé. Alors, ils ont des livres de magie qui contiennent toutes sortes de prières pour lesquelles ils voulaient se servir de Dieu pour arranger leurs affaires et régler leurs petites malversations. Et certains y cherchent même une fausse science de Dieu dans ces livres ésotériques. Alors, ils apportent leurs livres. Ils les brûlent sur la place publique. Et par ce geste, ils reconnaissent que le nom du Seigneur Jésus est au-dessus de tous les noms. Alors, Paul va écrire aux Philippiens que tout le monde se mette à genoux au nom de Jésus. Et lui-même, Paul, bien, il va mourir pour que le nom de Jésus soit glorifié. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui encore qui savent que la prière que Jésus nous apprend, que ton nom soit sanctifié, peut les conduire jusqu'au martyre. Hein? Essayez de parler sérieusement et intelligemment de Jésus. J'ai essayé hier encore, calmement, posément. Oh mon Dieu, on se détourne. On ne veut pas. Autour du temple consacré à la célèbre déesse Artémis, il y a des marchands, là, à Éphèse, marchands de statuettes très chères et de toutes sortes d'images et de médailles païennes. Ils vendent ces objets aux pèlerins venus de partout, puis ils font de bonnes affaires. Alors, mais voilà que beaucoup d'habitants se convertissent et deviennent chrétiens grâce à saint Paul. Alors, ils ne viennent plus adorer la déesse Artémis. Ils n'achètent plus de ces statues païennes ni d'images païennes. Alors, cela porte un fameux coup au commerce, au prestige d'Éphèse et de son temple. Alors, il y a une émeute qui éclate, et le patron des fabricants, là, excite les ouvriers contre saint Paul. Et le désordre gagne toute la ville, et on se précipite en masse au théâtre, et en y entraînant des compagnons de voyage de saint Paul. Saint Paul veut les rejoindre, mais ses disciples l'en empêchent. Puis au milieu de la foule qui est déchaînée, les uns crient une chose, les autres une autre, et beaucoup ne savent même pas pourquoi ils sont venus. Alors les Juifs profitent de la situation pour pousser en avant un certain Alexandre, avec qui ils s'entendent bien. Et quand Alexandre veut parler à la foule, eh bien les gens d'Éphèse, les Éphésiens, voient que c'est un Juif. Ils en concluent qu'il veut parler contre la déesse Artémis. Ils se mettent à crier pendant près de 2 heures, et lorsqu'ils n'ont plus de voix, ben un gardien calme la foule et la renvoie, tout simplement. Alors, à Éphèse, Paul apprend qu'il y a des disputes entre les chrétiens de Corinthe, et aussi longtemps qu'il a été parmi eux, Il a été capable de préserver l'amour et l'unité de la communauté, mais depuis lors, 4 ans se sont écoulés, et l'amour chrétien des gens de Corinthe s'est refroidi et l'unité s'est relâchée. Et Paul décide alors d'écrire une lettre aux Corinthiens divisés, puis il dit « Apollos, Paul, qui sont-ils? Ce sont deux serviteurs, rien de plus. Ils vous ont amené à la foi, mais chacun selon le don que le Seigneur lui a fait. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui donne la vie. Ni Apollos, ni Paul ne sont morts pour vous, mais le Christ Jésus est mort pour nous tous, pour que nous soyons un. Alors, de grâce, ne soyez pas divisés. » Écoutons maintenant les moines de Ligugé qui nous chantent « Christus factus est, le Christ s'est fait homme. » En Grèce, les Jeux olympiques s'ouvrent par une course de chars. C'est ça qui se déroule dans un nuage de poussière, comme on le voit dans le film Ben-Hur. Parmi les cris de la foule, puis les collisions, puis les chars brisés. Et rares sont ceux qui arrivent au but après le 12e tour. Et Paul écrit à ce sujet dans la première épître aux Corinthiens. Il écrit aux ces gens de Corinthe. « Dans le stade, tous courent, mais un seul gagne le prix. Pour atteindre leur but, les athlètes s'imposent une règle de vie très dure. Ils font tout cela pour une couronne de laurier qui se fane. Nous, c'est pour une couronne impérissable que nous luttons. Venez donc, courez de manière à arriver au but. Vous êtes des hommes libres. Moi aussi je suis libre. Mais je ne me permets pas tout. Je m'impose même une vie dure afin d'amener mes frères à l'Évangile et d'en vivre moi-même. » C'est clair, hein? Frères, où sont les beaux jours d'autrefois, où ensemble nous étions attablés pour vivre l'amour entre nous? Nous partageons le repas du Seigneur, et non pas chacun notre propre repas. Ainsi l'un n'était pas affamé tandis que l'autre était ivre. Vous n'avez donc pas de maison pour manger et boire? Ou bien méprisez-vous l'Église de Dieu, et voulez-vous faire honte à ceux qui n'ont rien? Or, quoi que vous dire, vous louez? Sur ce point, je ne vous loue pas, car voici ce que j'ai reçu du Seigneur, et qu'à mon tour, je vous transmets. La nuit où il fut livré, le Seigneur prit du pain, il le rompit, et dit à ses disciples, « Ceci est mon corps, livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Après le repas, il prit la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » C'est son âme, son sang, plein d'amour. « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous boirez cette coupe, faites ceci en mémoire de moi. » Que chacun s'interroge sur sa foi avant de manger ce pain et de boire à cette coupe. Comme je vous disais, on ne peut pas recevoir ça n'importe quand, n'importe comment, au mariage, aux funérailles. Les soucis de Paul ne se limitent pas évidemment aux chrétiens de Thessalonique, de Corinthe ou d'Éphèse, et au cœur de l'Asie mineure, en Turquie, l'Église des barbares est menacée, les Galates croient devoir observer la loi, et toutes les pratiques juives pour devenir chrétiens. Paul leur écrit, « Désormais, non, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, puisque vous êtes tous un dans le Christ. » Et au bout de 2 ans, Paul quitte Éphèse, en exhortant ses disciples à rester fermes dans la foi. Il repart pour la Macédoine et la Grèce. Il retrouve enfin l'église de Corinthe qui lui a causé tant de soucis. Et là, il fait un grand projet de voyage au cœur de l'Empire, puis il écrit une lettre aux Romains qu'il désire rencontrer depuis longtemps. Mais comme vous savez, là, cependant, quand il ira à Rome, il ne sera pas libre d'aller où il veut. D'autres lui conduiront prisonnier. Et il aura la tête tranchée. Là où on a construit cette immense basilique de Saint-Paul hors les murs qu'on célèbre aujourd'hui même en cette fête de la dédicace des basiliques de Saint-Pierre et de Saint-Paul. L'amour du Christ nous presse, dit Saint-Paul. dans son deuxième épître aux Corinthiens. L'amour du Christ nous presse à la pensée que si un seul est mort pour tous, alors tous sont morts. Et il est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur celui qui est mort et ressuscité pour eux. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une création nouvelle. Si on centre notre vie sur le Christ, nous sommes une création nouvelle. Et il ajoute, « Nous vous en supplions au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier par Dieu. » Bon, la force de Paul, c'est l'amour. L'amour qu'il a laissé grandir en lui. Un amour qui a embrasé et consumé tout son être. Paul désire offrir sa vie pour les églises qu'il aime. Et cet amour fait jaillir en lui une grande action de grâce. On appelle ça en grec eucharistie. Grande action de grâce à Dieu. C'est ça précisément le sens de l'Eucharistie célébrée dans nos messes. C'est l'action de grâce pour la vie du Christ offerte en sacrifice d'amour. Et à l'imitation du Christ, Paul a fait de sa propre vie une messe. Et la deuxième lettre aux Corinthiens dit cet amour en termes de consolation. La consolation, c'est le don de l'Esprit-Saint. Il est appelé le consolateur. Et consoler, c'est se rendre présent à l'autre par amour. Par l'amour. L'Esprit consolateur, c'est la présence d'amour de Dieu auprès de nous, en nous. Viens, Esprit Saint, saisis-nous. Prends notre Église de Montréal, notre Église de Sherbrooke, toutes nos églises du Québec, fais-en des églises de feu, de passion, d'enthousiasme, pour le nom de Jésus.